Bienvenue à la table ronde numéro 2 du congrès du SNAP-CGT. Salaire à vie, sécurité sociale pour tous, des utopies? Avec Nathalie Moureau, économiste de la culture, remplacée au pied levé par Grégory Jérôme, juriste à la IR de Strasbourg, Aurélien Catin, auteur et membre du collectif La Buse, et Denis Gravouille pour la CGT Spectacle.
Ce week-end, nous invitons des artistes, des experts, expertes, spécialistes et représentantes et représentants de structures professionnelles à partager des points de vue sur les conditions économiques et sociales avec lesquelles l'artiste-auteur, l'artiste-autrice au travail compose et se confronte au quotidien, notamment à l'absence de rémunération. Nous souhaitons mener une réflexion collective sur les améliorations voulues par les artistes et l'ouvrir aussi aux utopies. Au plaisir de se rencontrer, échanger et débattre pour faire vivre le syndicat et faire reconnaître notre travail.
Épisode 6, salaire pour tous, toutes, les artistes, le marché de l'art et les droits d'auteur.
Donc là, disons qu'on on serait à défendre un salaire pour tous, des conditions qui toucheraient tous les travailleurs. Et par rapport au cas des artistes-auteurs, donc, parce qu'aujourd'hui, on est là pour quel avenir pour les artistes-auteurs ? On en a parlé hier. Il y a la question, en préparant ce débat, j'ai discuté avec Nathalie Moureau, qui posait la question, quelle est la reconnaissance du travail artistique dans ce cadre-là, si il ne dépend plus en fait de la rémunération que l'artiste touchera, enfin que la rémunération, par exemple par le droit d'auteur, ne sera plus, est-ce que l'artiste, sa reconnaissance peut fonctionner hors du marché de l'art, par exemple. Et pour cette question-là, j'aimerais Grégory que tu réagisses. Ce que tu en penses.
Les derniers travaux que Nathalie Moreau a réalisés montrent que sur l'ensemble des revenus artistiques générés par l'ensemble des artistes en France, artistes auteurs, je ne parle pas des artistes du spectacle, un tiers seulement provient du marché. Donc 200 et quelques millions d'euros par an sur un ensemble de revenus global de tous les artistes auteurs de 660 millions d'euros, je crois. Donc ça montre que déjà, le marché n'est pas le seul domaine par lequel les artistes peuvent accéder à des revenus.
Alors c'est pas juste la question de l'accès, c'est la question de la reconnaissance du travail artistique.
Oui. Bon, mais ça montre déjà que cette proportion montre que il y a déjà des destins positifs possibles en dehors du marché. L'autre chose, c'est que, je rebondis à des propos qui ont été tenus, on a eu coutume de penser que l'activité artistique relevait de séquences d'activités, puis d'inactivités, d'activités, d'inactivités, un peu le principe selon lequel est construit aussi l'intermittence. Il y aurait une intermittence de l'activité qui se réduit au fond à l'existence d'un contrat et à sa fin, et à un nouveau contrat, etc. Ce qu'on observe quand on regarde de près la manière dont l'activité artistique se construit, c'est qu'en réalité, elle relève d'une permanence, cette activité. C'est-à-dire qu'on est bien dans une représentation du travail extrêmement réductrice qui consiste à penser qu'il n'y aurait d'activité qu'au moment de visibilité rendu palpable par un contrat, par exemple, pour ce qui relève du contrat de travail, ou par une exposition, ou par un temps de travail identifiable, au sens conventionnel du terme, alors qu'en réalité, on sait bien que l'activité, elle est permanente. Donc, dans la proposition qu'on a faite avec Dominique Sagot-Duvauroux et Patrice Gouazduf concernant la reconnaissance du temps de recherche comme étant constitutif du travail artistique, il y a un peu de cette idée-là, c'est-à-dire que considérant que l'activité artistique est composée de différentes temporalités et que ce temps de recherche jamais monétisé, rarement monétisable, en particulier du fait du rapport de force déséquilibré qui se joue à l'endroit des artistes, qui ont peu de notoriété, eh bien, montre que tout ça relève oui, d'une convention bien pratique, dans le sens où, en identifiant des situations de travail comme étant réduites, ça nous met toutes et tous dans des situations extrêmement vulnérables et de précarité. Donc, ça, c'est un élément de réponse. Ça ne répond pas tout à fait à la question, mais je crois que j'ai oublié un peu la question, mais je vais y revenir. Donc, ce qu'on a proposé, et c'est pour ça que, en entendant, je me dis, on est sur une ligne de crête toutes et tous qui exprime des positions un peu différentes, mais en même temps complémentaires. Ce que je veux dire par là, c'est que on a fait une proposition qui dit que des artistes dont les revenus seraient au moins équivalents à 9000 euros sur une année pourraient accéder à cette allocation recherche à laquelle on a pensé, qui serait financée par des ponctions sur la valeur produite par les activités artistiques et qui leur échappe en permanence. Et on s'est, et notamment dans des échanges qu'on a pu avoir avec Aurélien, mais avec d'autres aussi, enfin, pour autant que je m'en souvienne, c'est de dire, mais pourquoi réserver cette allocation recherche à des artistes qui ont déjà des revenus suffisamment importants pour accéder aux droits sociaux prévus par le régime des artistes-auteurs? Et en l'écoutant, je me dis, ben justement, c'est une position qui, de mon point de vue, présente effectivement une limite qui est d'exclure trop d'artistes de cette allocation. Mais entre la position d'Aurélien qui est, j'allais dire, maximaliste au sens, et je la partage, c'est-à-dire pourquoi poser des conditions à l'accès aux droits sociaux ou aux revenus ou aux salaires à vie mais j'ai l'impression qu'en attaquant les gouvernements ou le gouvernement ou les décideurs avec le volet d'Aurélien et avec le nôtre, peut-être qu'il y a une ligne de partage des eaux qui se dessine et qui pourrait éventuellement trouver à s'appliquer, qui ne serait pas tout à fait la nôtre et pas tout à fait la sienne. Enfin, je ne sais pas si c'est clair.
Oui, bah, je veux bien qu'Aurélien, tu réagisses. Et aussi, ça m'intéresserait, donc tu n'en as pas forcément parlé directement de ton point de vue sur les droits d'auteur, mais Aurélien, tu t'es fortement positionné en disant que dans notre condition, tu étais pour une suppression des droits patrimoniaux, qui est une partie des droits d'auteur. Donc voilà, j'aimerais que tu nous en dises un peu plus sur ce sujet.
Sur les droits d'auteur, alors. En tant que, effectivement, militant pour le salaire à la qualification personnelle, je propose une perspective qui est incompatible avec un revenu issu de la propriété. Et les droits d'auteur, les droits patrimoniaux, même s'il y a eu des tentatives de dissocier droits d'auteur et notions de propriété, notamment au moment du Front populaire, à l'époque où Jean Zay était ministre des Beaux-Arts, en 1936, sont malgré tout étroitement liés à la notion de propriété littéraire et artistique. C'est-à-dire que, selon les droits de propriété littéraire et artistique, pardon, je ne parle pas bien dans le micro, l'œuvre est un patrimoine que l'artiste acquiert par un travail passé non quantifiable, et à la limite on s'en fout, on se dit, bon, de toute façon, c'est même pas calculable ce truc, ce qui n'est pas tout à fait faux. Il acquiert un patrimoine, et en tant que titulaire du patrimoine, il va avoir droit à une rente sur l'exploitation commerciale de ce patrimoine, sur l'exploitation marchande de ce patrimoine, ce qui ne fonctionne pas, évidemment, quand on regarde les statistiques. D'ailleurs, c'est bien expliqué quand Grégory rappelle que seulement un tiers au mieux des revenus des artistes auteurs aujourd'hui, enfin des artistes, pardon, proviennent du marché. Le constat est tout à fait clair. Donc ça ne fonctionne pas, et puis en plus c'est un revenu issu de la propriété, c'est-à-dire une propriété lucrative au même titre que la propriété des actionnaires ou des sociétaires de sociétés anonymes, par exemple. Donc c'est quelque chose qui, dans une perspective communiste, on a la CGT, donc je balance les mots, n'est absolument pas compatible. Voilà. C'est aussi simple que ça. Maintenant, je dis pas aux artistes, lâchez vos droits d'auteur. Demain, vous dites, non, je touche pas de droits d'auteur, je suis contre, je suis communiste. Non, c'est évidemment pas la question. La question, c'est comment on commence à changer de paradigme. On sort du paradigme propriétaire qui a été complètement constitutif de la figure de l'artiste depuis la Révolution française. Pas sans raison, je veux dire, à l'époque, c'est un outil révolutionnaire, la généralisation de la propriété et l'attribution d'une propriété aux auteurs et aux autrices. Enfin, à l'époque, c'est surtout des hommes, hein, il faut être honnête, sur leurs œuvres. C'est révolutionnaire à l'époque. Simplement, c'est un outil qui, aujourd'hui, montre ses limites éclatantes et qui, quelque part, nous maintient dans une forme d'assentiment à une relation individuelle à l'œuvre, à une notion de contrôle de la diffusion. Puisque c'est la diffusion de l'œuvre qui est ma source de revenus à moi, bah, je vais devenir hyper tatillon, quoi. Je vais avoir envie que, dès que quelqu'un touche à mon œuvre, la met sur un truc, bah, faut qu'on me paye, c'est ma source de revenus. Si vous me payez pas, c'est que vous voulez que je crève, quoi. Donc, il y a un truc qui va pas. Parce que l'art, jusqu'à preuve du contraire, c'est pas fait pour ça. C'est fait pour être partagé et pour ensemencer d'autres œuvres, etc. Voilà, donc il y a toute cette réflexion. Et l'idée, encore une fois, c'est pas de dire il faut abandonner le droit d'auteur ou militer en tant qu'artiste pour supprimer le droit d'auteur demain. C'est pas ça la question. C'est comment on sort du paradigme propriétaire. Mais c'est vrai que dans ce sens-là, votre proposition va tout à fait dans le même sens. C'est comment on commence à se battre pour des choses qui ne sont plus je veux que l'utilisation de mon œuvre soit de plus en plus payée, etc. Comment on va plus vers des droits qui vont effectivement reconnaître tout le travail périphérique à la vente d'œuvres. Hein, le travail de recherche, le travail, les expositions, les interventions en milieu scolaire, les workshops, etc. Et comment aussi on va chercher des droits de travailleuse. Voilà, ça c'est très important. Je crois qu'il faut être à la hauteur du moment. Et on peut pas, en tant que syndicaliste et artiste, aller chercher des droits d'artiste. Ça c'est de la merde, mais vraiment, hein, je le dis très clairement. Il faut aller chercher des droits de travailleuse pour pouvoir entrer concrètement dans la lutte de classe aux côtés des autres travailleuses à qui la classe dirigeante aujourd'hui veut faire la peau, clairement. Et donc, on doit être à leur côté et le faire très concrètement, pas juste avec des banderoles qui sont très belles, mais aussi en allant chercher des outils qui sont interprofessionnels et qui sont des outils de classe. Et j'insiste là-dessus, il n'y a pas de régime spécial, ça n'existe pas. Le seul régime spécial que je connais, à la limite, c'est les indépendants. Mais tous les autres régimes, c'est la même chose. C'est-à-dire que à l'époque, c'est Torres, c'est des communistes aussi, c'est la CGT qui a la manœuvre et le Parti communiste. Quand on crée le statut de fonctionnaire avec l'idée que le salaire est permanent, qu'en sortant de la carrière, on part avec les 6 meilleurs mois, avec la moyenne des 6 derniers mois de la carrière du fonctionnaire. Derrière, on a, Marcel Paul, qui fait la même chose pour les électriciens gaziers et tous les travailleurs à statut, SNCF, Poste, etc., vont être calqués sur le statut de la fonction publique, avec l'idée qu'on a droit au salaire jusqu'au bout, hein, et que c'est les 6 meilleurs mois qui servent de base au calcul du salaire continué après la carrière. Et quand Ambroise Croizat, encore un communiste, fait le régime général de sécurité sociale, il essaye de calquer le même fonctionnement pour les salariés du privé en disant, bon, ils obtiennent pas les 6 meilleurs mois de la carrière, mais ils disent, ça va être les 10 meilleures années qui vont servir du salaire de référence à continuer après l'emploi. Et tout ça, c'est des outils qui sont absolument communs, qui sont pas du tout spéciaux. La classe dirigeante, les libéraux, ont complètement renversé le truc en disant, la SNCF, c'est des régimes spéciaux, machin. Non, tout ça, c'était un mouvement d'unification qui était en cours, et ils le savent très bien. Et tout leur but, justement, c'est de nous séparer, de nous diviser en disant, non, mais ça, c'est des trucs spéciaux, c'est des machins spéciaux. C'est pareil pour l'intermittence. C'est pas un régime spécial, l'intermittence. Caisse unique, c'est la même caisse pour tout le monde, pour tous les travailleurs du privé, qu'ils soient permanents ou intermittents. Et c'est pas un régime spécial. Il y a une petite adaptation des règles aux situations d'emploi discontinu, certes, mais ça tend à généraliser des droits à l'ensemble de la population. Voilà, ça c'est très important de pas reprendre les termes des libéraux, quoi. Il n'y a pas de régime spécial. Les seuls régimes spéciaux, c'est les trucs d'ubérisation, c'est la fausse indépendance, etc. Voilà. Tout le reste, ça tend vers un régime général. C'est comme ça qu'on le lit à Réseau Salariat, quoi. Ça tend vers ce statut permanent, ce statut qui est garanti, et encore une fois, qui n'est pas garanti en fonction de l'activité, qui n'est pas garanti parce qu'on a un emploi, qui est garanti comme droit politique.
Grégory.
Je peux compléter. Et oui, donc ce que je voulais dire, pour prolonger ce que disait Aurélien, c'est que effectivement cette question du droit d'auteur, elle nous dispense ou elle nous évite de défendre un enjeu principal. Je vais prendre un exemple. En 2019, lorsque la lettre ministérielle qui propose une recommandation en matière de rémunération des expositions, enfin, vous voyez, hein, cette grille-là. Quand j'ai vu apparaître ça, qui faisait suite déjà à la grille barémique de DCA, donc l'agence, l'association de développement des centres d'art, je me dis, c'est honteux, c'est indécent, quoi. On propose 1000 euros pour une expo, et quand il y a plusieurs artistes, c'est divisé par autant d'artistes qu'il y a. Vous vous souvenez de ce truc? C'était indécent, quoi. Et quand je dis, il faut revenir sur l'enjeu principal, je suis tout à fait d'accord, c'est-à-dire qu'en fait, il faut se battre pour la reconnaissance de l'activité artistique comme un travail, et les droits d'auteur, c'est sympa, mais c'est pas là-dessus qu'il faut concentrer nos efforts, quoi. Alors, là où je partage pas tout à fait ta position, c'est que je trouve ça plutôt très bien d'imaginer que sur les clés USB, sur les disques durs, sur tous les supports qui servent à enregistrer des contenus, j'ai l'impression de parler comme Fleur Pellerin, qu'il y ait des redevances qui soient perçues sur l'ensemble de ces marchés. Donc c'est génial.
Pour rappeler aux personnes qui sont présentes, donc là tu parles des droits collectifs qui sont récupérés par les sociétés d'auteurs. Ouais. Ouais.
Eh ben c'est bien que ça existe parce qu'effectivement ça alimente le secteur de quelques centaines de millions d'euros et c'est cool. Mais encore une fois, c'est pas là-dessus qu'il faut se battre principalement. Je suis d'accord pour mettre au centre de la bataille l'idée selon laquelle l'activité artistique relève d'un travail, peut-être pas tout à fait comme les autres, encore que. Mais en tout cas, d'un travail. Voilà, c'était juste pour dire ça.
Okay. Je te remercie.
Ouais, alors, je suis pas un grand spécialiste du droit d'auteur, mais juste, je me rappelle au moins deux points, c'est que c'est pas uniquement un droit patrimonial. C'est quand même aussi un droit qui permet, dans le droit en tout cas français, européen, contrairement au système du copyright aux États-Unis, ça permet à l'autrice ou à l'auteur de dire, ou à la réalisatrice ou au réalisateur, de dire, attendez, on ne peut pas dénaturer mon œuvre de cette façon-là. Alors évidemment, dans un système dans lequel on a renversé le capitalisme, il n'y a plus de capitalisme pour dénaturer les œuvres. Bon, d'accord. Mais en attendant, est-ce que même dans un autre système entièrement communiste, on voudrait que les... quelle est la part de liberté qu'on laisse aux autrices et aux auteurs? Donc, faut déjà dire que le droit de rémunération, il est issu de ce droit à dire « c'est mon intervention et on ne peut pas la changer ». Je pense qu'on est tous attachés à ça. Il ne faut juste pas le ramener uniquement à la propriété intellectuelle, uniquement à des questions de rémunération. Alors après, ma réflexion n'est pas suffisamment, pas autant à bout. Enfin, la réflexion qu'on a sur le sujet, en tant que CGT Spectacle et nos syndicats, défendent ce droit parce que c'est la rémunération. Et par exemple, des batailles qui ont eu lieu, notamment dans la transposition de la directive européenne, juste avant le Covid, pour faire en sorte qu'il y ait un partage de la valeur, alors c'est un terme capitaliste, on est bien d'accord, mais enfin qu'il y ait un partage de la valeur des œuvres, notamment musicales ou cinématographiques, qui sont, et d'ailleurs celles des autrices et des auteurs aussi, qui sont diffusées sur les plateformes, sur Internet et autres, c'est un enjeu. Alors, évidemment, c'est une sorte de grappillage sur les énormes profits faits par les énormes entreprises capitalistes dans lesquelles il n'y a pas de limite et pour lequel il faudrait imposer une loi anti-concentration. C'est un sujet qu'on a eu au Congrès fédéral qui vient de se terminer mercredi soir et qu'il va falloir continuer à débattre avec des parlementaires. Je sais que des parlementaires envisagent, notamment à la NUPES, de travailler sur des lois anti-concentration, tant mieux. Bon, mais je ne sais pas si à terme on se rejoindra. Pour l'instant, je pense qu'il faut faire attention avec ce point-là en n'oubliant pas le fait que ce n'est pas uniquement une question de revenus.
Ok. Alors attends, Aurélien, avant que tu reprennes le micro. Donc là, on va ouvrir le débat à la salle. Et je voudrais, avant, Denis, que tu... Qu'est-ce que tu puisses répondre à ces questions ou enfin, qu'est-ce que tu peux y répondre? Donc comment on organise le combat pour aller vers cette utopie? Quelles seraient les premières...
Il y a deux... Je n'ai pas de recette absolue, je vous rassure, sinon ce serait trouvé. J'aurais trouvé le bouton grève générale sous mon bureau, mais je l'ai cherché, je n'ai pas trouvé. En attendant, il y a quand même des périodes qui sont propices à essayer de bouger. Là, actuellement, les attaques contre le droit de grève dans les raffineries nous a amené à tous nous décider en dehors des respects, des délais légaux de préavis dont on fait exploser, à appeler à la grève. grève mardi et dès mardi, donc peut-être que ça continuera. On va voir comment ça tourne. Mais en tout cas, voilà, ça c'est un point très important. Je sais bien que pour des artistes, autrices ou auteurs, faire grève, c'est compliqué, mais il faut trouver le moyen de le faire et de lancer les assemblées générales. Vous êtes en congrès, ça tombe très bien, c'est l'assemblée générale de fait. Mais de façon générale, il faut qu'on ait le moyen d'avoir à la fois des perspectives, comme celle sur laquelle on a démarré au départ, la sécurité sociale professionnelle, le nouveau statut de travail salarié tel qu'on le propose, et les étapes pour y arriver. Il y a des principes qui peuvent guider des choses et essayer d'y arriver. Si je redétaille un tout petit peu, les sécurité sociale professionnelle, ça veut dire des droits collectifs, des droits attachés à la personne, ça rejoint ce qu'a dit tout à l'heure Aurélien, et garantis collectivement. Par exemple, en matière de sécurité sociale complémentaire, malheureusement, ça se fait pas dans la Sécu, ça se fait dans des groupes de protection sociale comme Audience, dont vous avez les affiches à l'entrée. On a imaginé, par exemple, l'équivalent d'une complémentaire santé qui d'habitude n'est attachée que à des salariés dans l'entreprise, donc dans l'emploi. Et nous, on l'a imaginé depuis 2007 pour les intermittents du spectacle, même s'ils sont hors contrat. Ça, c'est des points d'étape pour y arriver. C'est concret parce que ça veut dire les remboursements de santé complémentaires, ceux qui ne sont pas faits par la sécurité sociale à cause des déremboursements. Mais même dans une sécurité sociale complète, on en a eu le débat avec la Confédération aussi le deuxième jour de notre congrès. On a eu trois débats, hein. Lutte contre la concentration, sécurité sociale professionnelle, et un troisième, mais c'est pas le sujet d'aujourd'hui, c'est lever les freins à l'accès aux responsabilités syndicales des femmes. Donc, aussi peut-être des sujets qui reviendront dans ce congrès. Et donc, le deuxième débat, il portait aussi sur comment on l'articule, et je crois qu'il faut qu'on soit attentif à faire en sorte que les particularités soient prises en compte dans un système global. Ce qui n'est pas fait avec l'URSSAF du Limousin et qui devrait être fait dans une sécurité sociale qui prévoit aussi la situation particulière des artistes-auteurs. Donc, ce sont des batailles quotidiennes et puis il faut se donner des étapes comme arriver à étendre, à décliner un droit interprofessionnel aux spécificités en restant dans ce droit interprofessionnel.
D'accord. Est-ce que Aurélien, tu veux rajouter quelque chose ?
Oui, c'était juste une précision sur le droit d'auteur. Moi, je ne suis pas contre le droit d'auteur. Hein. Je suis pour envisager la sortie des droits patrimoniaux. Après, les droits moraux, c'est-à-dire tout ce qui est paternité, maternité de l'œuvre, respect de l'intégrité et tout, moi, j'ai pas de problème politique avec ça. Ça peut se débattre, évidemment, avec des modalités de liberté de l'autrice, de décider du niveau de partage et du niveau de modificabilité, etc., de son œuvre, comme ça se fait dans les Creative Commons, dans les licences Creative Commons, où on peut régler en quelque sorte le niveau de partage de son œuvre. Mais j'ai pas de problème avec les droits moraux, hein. Je voulais bien préciser ça. Je suis pas pour la suppression du droit d'auteur, mais je suis pour la sortie du droit d'auteur comme mode de rémunération. Et juste avant je rends le micro, j'en ai pour deux minutes, aussi sur la question de la valeur, pour moi c'est pas du tout un gros mot, je pense qu'il faut qu'on soit en permanence en train de parler de valeur économique, et en permanence de parler de qui a la maîtrise de cette valeur économique. Et ça rejoint cette question sur ce débat sur l'assurance chômage avec un MEDEF qui nous dit, en quelque sorte, la cotisation, c'est de la valeur qui est prise du côté des vrais travailleurs pour être donnée à des gens qui sont improductifs, c'est ça, hein. Donc c'est un transfert de valeur. Et donc la question pour moi, c'est pas celle du partage de la valeur, c'est celle de la production de la valeur. Qui produit cette valeur qui est affectée ? Est-ce que l'impôt qui paye les fonctionnaires, c'est une dépense ou est-ce que c'est une production ? C'est quelque chose qui vient reconnaître la production des fonctionnaires et s'ajouter à la production globale. Évidemment, c'est une production. D'ailleurs, c'est officiellement une production. Le PIB est additionné des salaires des fonctionnaires. Est-ce que la cotisation maladie qui paye les fonctionnaires hospitaliers est une dépense qui est prise à des vrais travailleurs, en vérité, dans la tête du patronat, qui est prise dans nos caisses à nous les patrons, et qui est jetée dans le sable comme ça, ou est-ce que c'est la reconnaissance d'une production de valeur ? Est-ce que la cotisation qui est versée sous forme de salaire continué aux intermittents, c'est une dépense ou est-ce que c'est une production ? C'est une production, évidemment. Et donc, il faut vraiment... Je pense qu'il faut Évidemment, à l'échelle comptable et microéconomique, si on regarde une entreprise ou la comptabilité d'une indépendante, la cotisation, c'est un prélèvement. Mais à l'échelle macro, c'est pas ça, c'est un ajout de valeur. Et donc, je crois qu'il faut aussi qu'on sorte un petit peu de cette idée du partage de la valeur comme si c'était un gâteau fini et que la seule solution, bah, c'est de se battre pour savoir qui va avoir une part pas trop petite. Non, c'est pas un gâteau, c'est une notion politique qui est extensible, qui est plastique. Et la notion, c'est qu'est-ce qui vaut? C'est quoi la valeur? Qui produit? Et qui a la maîtrise sur cette définition? Je crois que c'est vraiment ça, plus que le partage de la valeur. Le débat qu'on doit mettre au centre de nos mobilisations.
C'était le 6e épisode des tables rondes du congrès du SNAP-CGT. Enregistrement et montage, Clara Rivoisi. Vous pouvez aussi retrouver ces podcasts sur www.radiocampusparis.org ainsi que sur www.snapcgt.org.